Chapitre 12. Lorsque la nuit fut venue, Paul ceignit à son tour ses reins, assura ses sandales, prit son bâton et se retourna vers Actée. Elle était prête et résolue à fuir. Où allait-elle? Paul lui apportait. Elle s'éloignait de Néron, et dans ce moment, l'horreur et la crainte qu'elle avait éprouvée la veille la poussaient encore à accomplir ce projet. Mais elle sentait elle-même que si elle tardait d'un jour, que si elle revoyait cet homme qui avait pris sur son cœur une si puissante influence, tout était fini, qu'elle n'aurait plus de courage et de force que pour l'aimer, malgré tout et contre tout, et que sa vie inconnue irait encore se perdre dans cette vie puissante et agitée comme un ruisseau dans l'océan. Car pour elle, chose étrange, son amant était toujours Lucius et jamais Néron. Le vainqueur des Jeux olympiques était un autre homme que l'empereur, et son existence se partageait en deux phases bien distinctes, l'une qui était son amour pour Lucius et dont elle se sentait toute la réalité, et l'autre qui était l'amour de Néron pour elle et qui lui semblait un rêve. En sortant de la cabane, ses yeux se portèrent sur le golfe, témoin la veille de la terrible catastrophe que nous avons racontée. L'eau était calme, l'air était pur, la lune éclairait le ciel, et le phare de Misène, la terre, de sorte qu'on voyait de l'autre côté du golfe aussi bien que dans un jour d'Occident. Actée aperçut la masse sombre des arbres qui environnaient Boli, et, pensant que c'était là qu'était Lucius, elle s'arrêta en soupirant. Paul attendit un instant, puis faisant quelques pas vers elle, il lui dit d'une voix compatissante « Ne viens-tu pas, ma fille ?» Oh, mon père, dit Actée, n'osant avouer au vieillard les sentiments qui la retenaient, hier j'ai quitté Néron avec Agrippine, sa mère. Le bâtiment que nous montions a fait naufrage. Nous nous sommes sauvés en nageant toutes deux, et je l'ai perdue au moment qu'une barque la recueillait. Je voudrais bien ne pas abandonner cette plage sans savoir ce qu'elle est devenue. Paul étendit la main dans la direction de la villa de Julius César et montrant à Actée une grande lueur qui s'élevait entre ce bâtiment et le chemin de Misène. « Vois-tu cette flamme ?» lui dit-il. « Je la vois, » répondit Actée. « Eh bien, » continua le vieillard, « cette flamme est celle de son bûcher. » Et comme s'il eût compris que ce peu de mots répondait à toutes les pensées de la jeune femme, il se remit en route. En effet, Actée le suivit aussitôt, sans prononcer une parole, sans pousser un soupir. Ils côtoyèrent la mer pendant quelque temps, traversèrent Pouzol, puis ils prirent le chemin de Naples. Arrivés à une demi-lieue de la ville, ils la laissèrent à droite et allèrent par un sentier rejoindre la route de Capoue. Vers 1 heure du matin, ils aperçurent Atella, et bientôt sur la route un homme debout qui semblait les attendre. C'était Silas, l'envoyé de Paul. Le vieillard échangea avec lui quelques mots. Silas prit à travers champs, Paul et Actée le suivirent, et ils arrivèrent à une petite maison isolée où ils étaient attendus car au premier coup que frappa Silas, la porte s'ouvrit. Toute la famille, y compris les serviteurs, était rassemblée dans un atrium élégant et paraissait attendre. Aussi, à peine le vieillard eut-il paru sur le seuil que chacun s'agenouilla. Paul étendit les mains sur eux et les bénit. Puis, la maîtresse de la maison les conduisit au triclinium, et avant le souper qui était servi et qui attendait, elle voulut elle-même laver les pieds du voyageur. Quant à Actée, étrangère à cette religion nouvelle, tout entière aux mille pensées qui lui brisaient le cœur, elle demanda à se retirer. Aussitôt, une belle jeune fille de 15 ou 16 ans, voilée comme une vestale, marcha devant elle et la conduisit à sa propre chambre, où, un instant après, elle revint lui apportant sa part du repas de la famille. Tout était un sujet d'étonnement pour Actée. Elle n'avait jamais entendu parler des chrétiens chez son père que comme d'une secte d'idéologues insensés qui venait augmenter le nombre de toutes ces petites écoles systématiques où se discutait le dogme de Pythagore, la morale de Socrate, la philosophie d'Épicure ou les théories de Platon. Et à la cour de César, que, comme d'une race impie livrée aux plus affreuses superstitions et aux plus infâmes débauches, bonne à jeter au peuple lorsque le peuple demandait une expiation, bonne à jeter au lion lorsque les grands demandaient une fête. Il n'y avait qu'un jour qu'elle avait été secourue par Paul, il n'y avait qu'un jour qu'elle voyait des chrétiens, et cependant ce peu d'heures avait suffi pour détruire toute cette fausse opinion que la philosophie grecque et la haine impériale avaient pu lui donner. Ce qu'elle avait surtout compris dans la secte nouvelle, c'était le dévouement, car le dévouement est presque toujours, quelle que soit sa croyance et sa foi, la vertu dominante de la femme qui aime. De sorte qu'elle s'était laissée prendre d'une sympathie instinctive à cette religion qui commandait aux puissants la protection envers les faibles, aux riches, la charité envers les pauvres et aux martyrs, la prière pour leurs bourreaux. Le soir, à la même heure qu'elle était partie la veille, elle se remit en chemin. Cette fois, la route fut plus longue. Les voyageurs laissèrent à leur droite Capoue, qu'une faute d'animal a illustré à l'égal d'une victoire, puis ils s'arrêtèrent sur les rives du Volturne, et à peine y étaient-ils qu'une barque sortit d'une petite anse, conduite par un batelier, et s'approcha d'eux. Arrivés sur le bord, Paul et l'inconnu échangèrent un signe de reconnaissance. Le vieillard et Actée descendirent dans la barque. Déposé sur l'autre rive, Paul tendit une pièce de monnaie au batelier, mais celui-ci, tombant à genoux, baisa en silence le bas du manteau de l'apôtre et resta humilié et priant dans cette posture encore longtemps après que celui auquel il venait de donner cette marque de respect se fût éloigné de lui. Vers les 3 heures, un homme, assis sur une de ces pierres que les Romains plaçaient au revers des routes pour aider les voyageurs à remonter sur leurs chevaux, se leva à leur approche. C'était leur silencieux et vigilant courrier qui les attendait comme la veille pour les guider vers leur asile du soir. Cette fois, ce n'était plus une maison élégante comme celle de la veille qui les attendait. C'était une pauvre chaumière. Ce n'était pas un souper splendide servi dans un triclinium de marbre. C'était la moitié d'un pain trempé de larmes. C'était le nécessaire du pauvre, offert avec le même respect que le superflu du riche. Un homme les reçut. Il avait au front le stigmate des esclaves, un collier de fer au cou, 2 cercles de fer aux jambes. C'était le berger d'une riche villa. Il menait paître des milliers des brebis appartenant à un maître dur et avare, et il n'avait pas une peau de mouton à jeter sur ses épaules. Il avait placé sur une table un pain. Près de ce pain, un de ces vases de grès à la matière commune, mais à la forme charmante. Puis il avait étendu dans un coin de la chambre un lit de fougères et de roseaux. Et en faisant cela, sans doute, cet homme avait fait plus aux yeux du Seigneur que n'aurait pu faire le riche avec la plus splendide hospitalité. Paul s'assit à table et Actée près de lui. Puis leur hôte, ayant fait ce qu'il avait pu pour eux, entra dans une chambre à côté, et bientôt ils entendirent à travers la porte mal fermée des plaintes et des sanglots. Actée posa sa main sur le bras de Paul. « N'entendez-vous pas, mon père ? » lui dit-elle. « Oui, ma fille, répondit le vieillard, on pleure ici des larmes amères, mais celui qui afflige peut consoler. » Un instant après, leur hôte rentra et alla s'asseoir, sans dire un mot, dans un coin de la chambre. Puis, appuyant ses coudes sur ses genoux, il le laissa tomber sa tête entre ses mains. Actée, le voyant si triste et si accablé, alla s'agenouiller près de lui. Esclave, lui dit-elle tout bas, pourquoi ne t'adresses-tu pas à cet homme? Peut-être aurait-il quelque remède à ton affliction, quelque consolation à ta douleur.
Merci, lui répondit l'esclave, mais notre affliction et notre douleur ne sont pas de celles qu'on guérit avec des paroles.
Homme de peu de foi, dit Paul en se levant, pourquoi doutes-tu? Ne sais-tu pas les miracles du Christ?
Oui, mais le Christ est mort, s'écria l'esclave en secouant la tête. Les Juifs lui ont mis les bras en croix, il est maintenant au ciel, à la droite de son Père. Béni soit son nom.
Ne sais-tu pas, reprit Paul, qu'il a légué son pouvoir à ses apôtres?
Mon enfant, mon pauvre enfant, dit le père éclatant en sanglots et sans répondre au vieillard.
Un gémissement sourd qui se fit entendre dans la chambre à côté s'éveilla comme un écho à cette explosion de douleur.
« Oh, mon père, dit Actée en revenant vers Paul, si vous pouvez quelque chose pour ces malheureux, faites ce que vous pouvez, je vous en supplie. Car quoique j'ignore la cause de leur désespoir, il me déchire l'âme. Demandez-lui donc ce qu'il a, peut-être vous répondra-t-il à vous. »
« Ce qu'il a, je le sais, dit le vieillard, il manque de foi. »
« Mais comment voulez-vous que je croie ?» dit l'affligé. « Comment voulez-vous que j'espère ? Toute ma vie jusqu'aujourd'hui n'a été qu'une douleur. Esclave et fils d'esclave, je n'ai jamais eu une heure de joie. Enfant, je n'étais même pas libre au sein de ma mère. Jeune homme, il m'a fallu travailler incessamment sous la verge et sous le fouet. Père et époux, on me retient chaque jour la moitié du pain qui serait nécessaire à ma femme et à mon enfant qui, atteint jusque dans le ventre de sa mère par les coups dont ils l'ont accablé pendant sa grossesse, est venu au monde maudit, estropié, muet. Mon enfant que nous aimions tout frappé de la colère céleste qu'il était et que nous espérions voir échapper à son sort par son malheur même. Eh bien non, c'était trop de bonheur. Son maître l'a vendu hier à un de ces hommes qui font trafic de chair, qui estiment ce que peut rapporter chaque infirmité, qui s'enrichissent à faire mendier pour eux sur la place de Rome des malheureux dont chaque soir ils rouvrent les plaies ou brisent les membres. Et demain, on nous l'arrache pour le livrer à cette torture. Lui, pauvre innocent, qui n'aura pas même une voix pour se plaindre, pour nous appeler à son secours et pour maudire ses bourreaux.
Et si Dieu guérissait ton enfant, dit le vieillard.
Oh, alors, on nous le laisserait, s'écria le père, car ce qu'il vend et achète, c'est misérable, c'est sa misère et son infortune, ses jambes brisées, sa langue muette. S'il marchait, s'il parlait, ce serait un enfant comme tous les enfants, et il n'aurait de valeur que lorsqu'il deviendrait un homme.
Ouvre cette porte, dit Paul. L'esclave se leva, l'œil fixe et le visage étonné, plein de doute et d'espoir à la fois, et s'approchant de la porte, il obéit à l'ordre que venait de lui donner le vieillard. Le regard d'Actée, tout voilé de larmes qu'il était, put alors pénétrer dans la seconde chambre. Il y avait, comme dans la première, un lit de paille. Sur cette paille, un enfant de 4 ou 5 ans était assis, souriant avec insouciance et jouant avec quelques fleurs, tandis que près de lui, la face contre terre, raidie, immobile, une femme était couchée, les mains enfoncées dans ses cheveux et pareille à une statue du désespoir. La figure de l'apôtre prit à ce spectacle une expression sublime de confiance et de foi. Ses yeux se levèrent vers le ciel, fixes et ardents, comme s'ils pénétraient jusqu'au trône du Saint des Saints. Un rayon de lumière se joua autour de ses cheveux blancs comme une auréole, et sans quitter sa place, sans faire un pas,
Il étendit lentement et gravement la main vers l'enfant et dit ses seules paroles. « Au nom du Dieu vivant qui a créé le ciel et la terre, lève-toi et parle. » Et l'enfant se leva et dit « Seigneur, Seigneur, que votre saint nom soit béni. » La mère bondit en jetant un cri, le père tomba à genoux, l'enfant était sauvé. Et Paul ferma la porte sur eux en disant « Voilà une famille d'esclaves dont le bonheur ferait envie à une famille d'empereurs. » La nuit suivante, ils continuèrent leur route et ils arrivèrent à Fondi. Ainsi, pendant tout ce voyage nocturne et mystérieux, Actée revoyait les uns après les autres les lieux qu'elle avait parcourus avec Néron lors de son triomphe. C'était à Fondi qu'ils avaient été si splendidement reçus par Galba, ce vieillard à qui les oracles promettaient la couronne. Sa vue avait rappelé cette prédiction à l'empereur qu'il avait oubliée grâce à l'obscurité dans laquelle le futur César affectait de vivre, de sorte qu'à peine arrivé à Rome, son premier soin avait été de l'éloigner de l'Italie. En conséquence, Galba avait reçu le commandement de l'Espagne et il était parti aussitôt, plus empressé peut-être encore de s'éloigner de l'empereur que l'empereur n'était empressé lui-même à l'éloigner de l'Empire. Avant de partir, il avait affranchi ses esclaves les plus fidèles, et ce fut chez l'un de ses affranchis, converti à la foi chrétienne, que Silas prépara le gîte du vieillard et de la jeune fille. Cet esclave avait été jardinier du verger de Galba, et il avait reçu en don, le jour de son affranchissement, la petite maison qu'il habitait dans les jardins de son maître. Des fenêtres de cette humble cabane, Actée voyait à la clarté de la lune la magnifique villa où elle avait logé avec Lucius. L'un de ces deux voyages était pour elle un rêve. Que de choses étranges elle avait apprises, que d'illusions elle avait touchées du doigt et qui s'étaient envolées, que de douleurs qu'elle croyait alors ne pouvoir pas même exister et qui s'étaient réalisées depuis cette époque. Comme tout avait changé pour elle, comme ces jardins fleuris où elle croyait marcher encore s'étaient séchés et flétris, comme dans sa vie aride et solitaire, son amour seul était resté vivant, toujours nouveau, toujours le même, toujours debout et inébranlable, comme une pyramide au milieu du désert. 3 jours, ou plutôt 3 nuits encore, ils continuèrent leur route, se cachant lorsque la lumière paraissait et reprenant leur voyage dès que l'ombre descendait du ciel, toujours précédée par Silas, et s'arrêtant toujours chez de nouveaux adeptes, car déjà la foi commençait à compter, surtout parmi les esclaves et le peuple, un grand nombre de néophytes. Enfin, le 3e jour, ils partirent de Velletri, cette ancienne capitale des Volsques, qui avait donné la mort à Coriolan et le jour à Auguste. Et comme la lune s'élevait sur l'horizon, ils arrivèrent au sommet de la montagne d'Albano. Cette fois, Silas ne les avait pas quittés. Seulement, il marchait devant eux à la distance de 300 à 400 pas. Mais parvenu au tombeau d'Ascagne, il s'arrêta, attendant qu'ils le rejoignissent, et étendant la main vers l'horizon où brillait une multitude de lumières, et d'où venait un grand murmure, il ne dit que ce mot qui annonçait au vieillard et à la jeune fille qu'ils touchaient au terme de leur voyage « Rome ». Paul se jeta à genoux, remerciant le Seigneur de l'avoir conduit après tant de dangers au terme de son voyage et au but qui lui était promis. Quant à Actée, elle s'appuya contre le sépulcre pour ne pas tomber. Tant il y avait de souvenirs doux et cruels dans le nom de cette ville, à cette place d'où elle l'avait aperçue pour la première fois. « Oh, mon père, dit la jeune fille, Je t'ai suivi sans te demander où nous allions. Mais si j'avais su que ce fut à Rome, oh, je crois que je n'aurais pas eu le courage.
Ce n'est point à Rome que nous allons, répondit le vieillard en se relevant. Puis aussitôt, comme un groupe de cavaliers s'approchait, suivant la voie appienne, Silas quitta la route et prit à droite au travers de la plaine. Paul et Actée le suivirent. Ils commencèrent alors à s'avancer entre la voie latine et la voie appienne, évitant même de suivre aucune des routes qui partaient de la première et conduisaient l'une à Marina près du lac d'Albano et l'autre au temple de Neptune près d'Ancium. Au bout de 2 heures de chemin, et après avoir laissé à droite le temple de la fortune féminine et à gauche celui de Mercure, ils entrèrent dans la vallée d'Égérie, suivirent quelque temps les bords du petit fleuve Almon, puis, prenant à droite et s'avançant au milieu de quartiers de rochers qui semblaient avoir été détachés de la montagne par quelques tremblements de terre, ils se trouvèrent tout à coup à l'entrée d'une caverne. Silas y entra aussitôt en invitant d'une voix basse des voyageurs à le suivre. Mais Actée tressaillit malgré elle à l'aspect inattendu de cette ouverture sombre qui semblait la gueule d'un monstre prêt à la dévorer. Paul sentit son bras se poser sur le sien comme pour l'arrêter. Il comprit sa terreur. « Ne crois rien, ma fille, lui dit-il. Le Seigneur est avec nous. » Actée poussa un soupir, jeta un dernier regard sur ce ciel tout parsemé d'étoiles qu'elle allait perdre de vue, puis s'enfonça avec le vieillard sous la voûte qui s'offrait à elle. Au bout de quelques pas hasardés dans une obscurité si complète que la voix seule de Silas servait de guide à ceux qui le suivaient, il s'arrêta au pied d'un des piliers massifs qui soutenait la voûte, et frappant 2 cailloux l'un contre l'autre, il en fit jaillir quelques étincelles qui enflammèrent un linge soufré, puis tirant une torche cachée dans l'exclavation de rochers. « Il n'y a plus de danger à cette heure, dit-il, et tous les soldats de Néron seraient à notre poursuite, qui ne nous rejoindraient pas maintenant. » Actée leva les yeux autour d'elle, et d'abord ses regards se distinguèrent rien. La torche, encore vacillante à cause de l'air extérieur dont les courants se croisaient sous ses voûtes, ne jetait que des lueurs rapides et mourantes, comme de pâles éclairs, de sorte que les objets frappés momentanément de lumière rentraient dans l'obscurité sans qu'on eût eu le temps de distinguer leur forme et leur couleur. Peu à peu, cependant, les yeux s'habituèrent à cette réverbération. La flamme de la torche devint moins mouvante. Un plus grand cercle s'éclaira, et les voyageurs purent distinguer jusqu'au plafond sombre de ces immenses voûtes. Enfin, aucun air ne pénétrant plus jusqu'à eux, la clarté devint plus fixe et plus étendue. Tantôt ils marchaient resserrés entre 2 murailles, tantôt ils entraient dans un immense carrefour de pierres, aux cavités profondes dans lesquelles allait mourir la clarté de la torche qui illuminait d'un reflet décroissant les angles des piliers blancs et immobiles comme des spectres. Il y avait dans cette marche nocturne, dans le bruit des pas qui, si léger qu'il fût, était répété par un écho funèbre, dans ce manque d'air auquel la poitrine n'était point encore habituée, quelque chose de triste et de saisissant qui oppressait le cœur d'Actée comme une douleur. Tout à coup, elle s'arrêta en frissonnant, appuyant une de ses mains sur le bras de Paul et lui montrant de l'autre une rangée de cercueils qui garnissait une des parois de la muraille. En même temps, et à l'extrémité de ces sombres avenues, ils virent passer des femmes vêtues de blanc, pareilles à des fantômes, portant des torches et qui toutes se dirigeaient vers un centre commun. Bientôt, ils entendirent, en avançant toujours, une harmonie pure
qui semblait un cœur d'ange et qui flottait mélodieusement sous ses arcades sonores. De place en place, des lampes fixées aux piliers commençaient d'indiquer la route. Les cercueils devenaient plus fréquents, les ombres plus nombreuses, les chants plus distincts. C'est qu'ils approchaient de la ville souterraine et ses alentours commençaient à se peupler de morts et de vivants. De temps à autre, on trouvait, semés sur la terre, des bluets et des roses qui s'étaient détachés de quelques couronnes et qui se fanaient tristement loin de l'air et du soleil. Actée ramassait ces pauvres fleurs, filles du jour et de la lumière comme elle, étonnée de se trouver comme elle, ensevelie vivante dans un tombeau, et elle les réunissait l'une à l'autre et en faisait un bouquet pâle et inodore, comme les débris d'un bonheur passé, on se fait une espérance pour l'avenir. Enfin, au détour d'une des mille routes de ce labyrinthe, ils découvrirent un large emplacement taillé sur le modèle d'une basilique souterraine, éclairé par des lampes et des torches, et rempli d'une population tout entière d'hommes, de femmes et d'enfants. Une troupe de jeunes filles, couvertes de longs voiles blancs, faisait retentir les voûtes de ces cantiques qu'Actée avait entendues. Un prêtre s'avançait à travers la foule inclinée et s'apprêtait à célébrer les mystères lorsqu'en approchant de l'autel, il s'arrêta tout à coup, se retournant vers son auditoire étonné. « Il y a, s'écria-t-il avec une inspiration respectueuse, un plus digne que moi de vous répéter la parole de Dieu, car il l'a entendue de la bouche de son fils. Paul, approche-toi et bénis tes frères. » Et tout le peuple à qui l'apôtre était promis depuis longtemps tomba à genoux. Actée, toute païenne qu'elle était, fit comme le peuple, et le futur martyr monta à l'autel. Ils étaient dans les catacombes. Chapitre 13. C'était une ville tout entière sous une autre ville. La terre, les peuples et les hommes ont une existence pareille. La terre a ses cataclysmes, les peuples leurs révolutions, l'homme ses maladies. Tous ont une enfance, une virilité et une vieillesse. Leur âge diffère dans sa durée, et voilà tout. L'une compte par mille ans, les autres par siècle, les derniers par jour. Dans cette période qui leur est accordée, il y a pour chacun des époques de transition, pendant lesquelles s'accomplissent des choses inouïes, qui, tout en se rattachant au passé et en préparant l'avenir, se révèlent à l'investigation de la science sous le titre d'accident de la nature, tandis qu'elles brillent à l'œil de la foi comme des préparations de la providence. Or, Rome était arrivée à une de ces époques mystérieuses, et elle commençait à éprouver de ces frémissements étranges qui accompagnent la naissance ou la chute des empires. Elle sentait tressaillir en elle l'enfant inconnu qu'elle devait mettre au jour, et qui déjà s'agitait sourdement dans ses vastes entrailles. Un malaise mortel la tourmentait, et comme un fiévreux qui ne peut trouver ni sommeil ni repos, elle consumait les dernières années de sa vie païenne, tantôt en accès de délire, tantôt en intervalles d'abattement. C'est que, comme nous l'avons dit, au-dessous de la civilisation superficielle et extérieure, qui s'agitait à la surface de la terre, s'était glissé un principe nouveau, souterrain et invisible, portant avec lui la destruction et la reconstruction, la mort et la vie, les ténèbres et la lumière. Aussi, tous les jours s'accomplissaient au-dessous d'elle, autour d'elle, de ces événements inexplicables à son aveuglement et que ses poètes racontent comme des prodiges. C'étaient des bruits souterrains et bizarres que l'on attribuait aux divinités de l'enfer, C'étaient des disparitions subites d'hommes, de femmes, de familles tout entières. C'étaient des apparitions de gens que l'on croyait morts et qui sortaient tout à coup du royaume des ombres pour menacer et pour prédire. C'est que le feu souterrain qui échauffait cet immense creuset y faisait bouillonner comme de l'or et du plomb toutes les passions bonnes et mauvaises. Seulement l'or se précipitait et le plomb restait à la surface. Les catacombes étaient le récipient mystérieux où s'amassait goutte à goutte le trésor de l'avenir. C'était, comme on le sait, de vastes carrières abandonnées. Rome tout entière avec ses maisons, ses palais, ses théâtres, ses bains, ses cirques, ses aqueducs, en était sortie pierre à pierre. C'étaient les flancs qui avaient enfanté la ville de Romulus et de Scipion. Mais à compter d'Octave et du jour où le marbre avait succédé à la pierre, les échos de ces vastes galeries avaient cessé de retentir des pas des travailleurs. Le travertin était devenu trop vulgaire, et les empereurs avaient fait demander à Babylone son porphyre, à Thèbes son granit et à Corinthe son airain. Les cavernes immenses qui s'étendaient au-dessous de Rome étaient donc restées abandonnées, désertes et oubliées, lorsque, lentement et avec mystère, le christianisme naissant les repeupla. D'abord elles furent un temple, puis un asile, puis une cité. À l'époque où Actée et le vieillard y descendirent, ce n'était encore qu'un asile. Tout ce qui était esclave, tout ce qui était malheureux, tout ce qui était proscrit, était sûr d'y trouver un refuge, des consolations et une tombe. Aussi des familles tout entières s'y étaient abritées dans l'ombre, et déjà les adeptes de la foi nouvelle se comptaient par milliers. Mais au milieu de la foule immense qui couvrait la surface de Rome, nul n'avait pensé à remarquer cette infiltration souterraine qui n'était pas assez considérable pour apparaître à la superficie de la société et faire baisser le niveau de la population. Qu'on ne croit pas, cependant, que la vie des premiers chrétiens ne fut occupée qu'à se soustraire aux persécutions qui commençaient à naître. Elle se rattachait par la sympathie, par la piété, par le courage, à tous les événements qui menaçaient les frères qu'une nécessité quelconque avait retenus dans les murailles de la ville païenne. Souvent, lorsqu'un danger apparaissait, le néophyte de la cité supérieure sentait monter jusqu'à lui une aide inattendue. Une trappe invisible s'ouvrait sous ses pieds et se refermait sur sa tête. La porte de son cachot tournait mystérieusement sur ses gonds et le geôlier fuyait avec la victime. Ou bien, lorsque la colère était si prompte que, semblable à la foudre, elle avait frappé en même temps que l'éclair avait paru, lorsque le néophyte était devenu martyr, soit qu'il eût été étranglé dans la prison de Tullus, soit que sa tête fût tombée sur la place publique, soit qu'il eût été précipité du haut de la roche tarpéienne, soit enfin qu'il eût été mis en croix sur le mont Esquilin, profitant des ténèbres de la nuit, quelques vieillards prudents, quelques jeunes gens aventureux et parfois même quelques femmes timides, gravissant par des sentiers détournés la montagne maudite où l'on jetait les cadavres des condamnés afin qu'ils y fussent dévorés par les bêtes féroces et les oiseaux de proie, allaient enlever les corps mutilés et les apportaient religieusement dans les catacombes, où, d'objets de haine et d'exécration qu'ils avaient été pour leurs persécuteurs, ils devenaient un objet d'adoration, de respect pour leurs frères, qui s'exhortaient l'un l'autre à vivre et à mourir, comme l'élu qui les avait précédés au ciel avait vécu et était mort sur la terre. Souvent, il arrivait aussi que la mort, lasse de frapper au soleil, venait choisir quelques victimes dans les catacombes. Dans ce cas, ce n'était pas une mère, un fils, une épouse qui perdait un père ou un mari. C'était une famille tout entière qui pleurait un enfant. Alors on le couchait dans son linceul, Si c'était une jeune fille, on la couronnait de roses. Si c'était un homme ou un vieillard, on lui mettait une palme à la main. Le prêtre disait sur lui les prières des morts. Puis on l'étendait doucement dans la tombe de pierre, creusée d'avance, et où il allait dormir, dans l'attente de la résurrection éternelle. C'était là les cercueils qu'Actée avait vus en entrant pour la première fois sous ces voûtes inconnues. Alors il lui avait inspiré une terreur profonde qui bientôt se changea en mélancolie. La jeune fille, encore païenne par le cœur, mais déjà chrétienne par l'âme, s'arrêtait quelquefois des heures entières devant ces tombes où une mère, une épouse ou une fille désolée avait gravé à la pointe du couteau le nom de la personne aimée et quelques symboles religieux, quelques inscriptions saintes qui exprimaient leur douleur ou leur espérance. Sur presque tous, c'était une croix, emblème de résignation pour les hommes auxquels elle racontait les souffrances d'un dieu, puis encore le chandelier aux sept branches qui brûlait dans le temple de Jérusalem, ou bien la colombe de l'arche, douce messagère de miséricorde, qui rapporte à la terre la branche d'olivier qu'elle a été cueillir dans les jardins du ciel. Mais d'autres fois aussi, ces souvenirs de bonheur revenaient plus vifs et plus puissants dans le cœur d'Actée. Alors elle épiait les rayons du jour et écoutait les bruits de la terre. Alors elle allait s'asseoir, seule et isolée, adossée à quelques piliers massifs, et les mains croisées et le front appuyé sur les genoux, couverte d'un long voile, elle eût semblé, à ce qui passait près d'elle, une statue assise sur un tombeau, si parfois on n'eût pas entendu un soupir sortir de sa bouche, si l'on n'eût pas vu courir par tout son corps un frémissement de douleur. Alors Paul, qui seul savait ce qui se passait dans cette âme, Paul qui avait vu le Christ pardonner à la Madeleine, ça remettait au temps et à Dieu de fermer cette blessure. Et la voyant ainsi muette et immobile, disait au plus pur des jeunes vierges, « Priez pour cette femme, afin que le Seigneur lui pardonne et qu'elle soit un jour une des vôtres, et qu'à son tour elle prie avec nous. » Les jeunes filles obéissaient, et soit que leurs prières montassent au ciel, soit que les pleurs adoucissent l'amertume de la douleur, on voyait bientôt la jeune grecque rejoindre ses jeunes compagnes, le sourire sur les lèvres et les larmes dans les yeux. Cependant, tandis que les chrétiens cachés dans les catacombes vivaient de cette vie de charité, de prosélytisme et d'attente, les événements se pressaient au-dessus de leur tête. Le monde païen tout entier chancelait comme un homme ivre, et Néron, prince du festin et roi de l'orgie, se gorgeait de plaisir de vin et de sang. La mort d'Agrippine avait brisé le dernier frein qui pouvait le retenir, encore par cette crainte d'enfant que le jeune homme garde pour sa mère. Mais du moment où la flamme du bûcher s'était éteinte, toute pudeur, toute conscience, tout remords avait paru s'éteindre avec elle. Il avait voulu rester aboli, car au sentiment généreux disparu avait succédé la crainte. Et Néron, quelque mépris qu'il eût des hommes, quelque impiété qu'il professât pour les dieux, ne pouvait penser qu'un pareil crime ne soulèverait pas contre lui la haine des uns et la colère des autres. Il demeurait donc loin de Naples et de Rome, attendant les nouvelles que lui rapporteraient ses courriers. Mais il avait douté à tort de la bassesse du Sénat, et bientôt une députation des patriciens et des chevaliers vint le féliciter d'avoir échappé à ce péril nouveau et imprévu, et lui annoncer que non seulement Rome, mais toutes les villes de l'Empire encombraient les temples de leurs envoyés et témoignaient leur joie par des sacrifices. Quant aux dieux, s'il faut en croire Tacite, qui pourrait bien leur avoir prêté un peu de son rigorisme et de sa sévérité, ils furent moins faciles. À défaut du remords, ils envoyèrent l'insomnie aux parricides, et pendant cette insomnie, il entendait le retentissement d'une trompette sur le sommet des coteaux voisins et des cris lamentables, inconnus et sans cause arrivaient jusqu'à lui, venant du côté du tombeau de sa mère. En conséquence, il était reparti pour Naples. Là, il avait retrouvé Poppée et avec elle la haine contre Octavie, cette malheureuse sœur de Britannicus, pauvre enfant, qui, arrachée à celui qu'elle aimait avec une pureté de vierge, avait été poussée par Agrippine dans les bras de Néron. Pauvre épouse, dont le deuil avait commencé le jour des noces, qui n'entra dans la maison conjugale que pour y voir mourir, empoisonné, son père et son frère, que pour y lutter vainement contre une maîtresse plus puissante et qui, loin de Rome, restait à 20 ans exilée dans l'île de Pandatère. Déjà séparée de la vie par le pressentiment de la mort et n'ayant pour toute cour que des centurions et des soldats, cour terrible au regard incessamment tourné vers Rome et qui n'attendait qu'un ordre, un geste, un signe pour que chaque flatteur devint un bourreau. Eh bien, c'était cette vie, toute isolée, malheureuse et ignorée, qu'elle était, qui tourmentait encore Poppée au milieu de ses splendeurs adultères et de son pouvoir sans bornes. Car la beauté, la jeunesse et les malheurs d'Octavie l'avaient faite populaire. Les Romains la plaignaient instinctivement et par ce sentiment naturel à l'homme qui s'apitoie devant la faiblesse qui souffre. Mais cet intérêt lui-même pouvait contribuer à la perdre et jamais à la sauver, car il était plus tendre que fort et pareil à celui qu'on éprouve pour une gazelle blessée ou pour une fleur brisée sur sa tige. Aussi Néron, malgré son indifférence pour Octavie et les instances de Poppée, hésitait-il à frapper. Il y a de ces crimes si inutiles que l'homme le plus cruel hésite à les commettre, car ce que le coupable couronne et craint, ce n'est pas le remords, mais c'est le manque d'excuses. La courtisane comprit donc ce qui retenait l'empereur, car sachant que ce n'était ni l'amour ni la pitié, elle se mit en quête de la véritable cause et ne tarda point à la deviner. Aussi un jour, une sédition éclata. Le nom d'Octavie fut prononcé avec des cris qui demandaient son retour. Les statues de Poppée furent renversées et traînées dans la boue. Puis vint une troupe d'hommes armés de fouets qui dispersa les rebelles et replaça les effigies de Poppée sur leur piédestal. Mais ce souvenement avait duré 1 heure et coûté 1 million. Ce n'était pas payé trop cher la tête d'une rivale. Car cette démonstration, c'était tout ce qu'il fallait à Poppée. Poppée était à Rome, elle accourut à Naples. Elle fuyait les assassins payés par Octavie, disait-elle. Elle était ravissante de frayeur. Elle se jeta aux genoux de Néron. Néron envoya l'ordre à Octavie de se donner la mort. En vain la pauvre exilée offrit-elle de se réduire au titre de veuve et de sœur. En vain évoqua-t-elle le nom des Germanicus, leurs aïeux communs, celui d'Agrippine, qui, tant qu'elle avait vécu elle-même, avait veillé sur ses jours. Tout fut inutile. Et comme elle hésitait à obéir et qu'elle n'osait se frapper elle-même, on lui lia les bras, on lui ouvrit les 4 veines, puis on lui coupa toutes les autres artères, car le sang glacé par la peur tendait à couler, et comme il ne venait pas encore, on l'étouffa à la vapeur d'un vin bouillant. Enfin, pour qu'elle ne doutât pas du meurtre, de peur qu'elle n'eût l'idée qu'on avait substitué une victime vulgaire à la victime impériale, on sépara la tête du corps et on la porta à Poppée, qui la posa sur ses genoux, lui rouvrit les paupières, et qui, croyant peut-être voir une menace dans ce regard attonné glacé, lui enfonça dans les yeux les épingles d'or qui retenaient sa chevelure. Enfin, Néron revint à Rome et sa folie et sa dissolution furent portées à leur comble. Il y eut des jeux où des sénateurs combattirent à la place des gladiateurs, des combats de champs où l'on punit de mort ceux qui n'applaudissaient pas, un incendie qui brûla la moitié de Rome et que Néron regarda en battant des mains et en chantant sur une lyre. Enfin Poppée comprit qu'il était temps de retenir celui qu'elle avait excité, que des plaisirs si inouïs et si monstrueux nuisaient à son influence toute basée sur les plaisirs. Sous le prétexte de sa grossesse, elle refusa d'aller au théâtre un jour que Néron devait y chanter. Ce refus blessa l'artiste. Il parla à l'empereur, Pompée résista en favorite, et Néron, impatienté, la tua d'un coup de pied. Alors Néron prononça son éloge à la tribune, et ne pouvant la louer sur ses vertus, il la loua sur sa beauté. Puis il commanda lui-même les obsèques, ne voulant pas que le corps fût brûlé, mais embaumé à la manière des rois d'Orient. Et Pline, le naturaliste, assure que l'Arabie, en un an, ne produit pas autant d'encens et de myrrhe qu'en consomma l'empereur pour les divines funérailles de celle qui ferrait ses mules avec de l'or et épuisait tous les jours pour ses bains le lait de 500 ânesses. Les larmes des mauvais rois retombent sur les peuples en pluie de sang. Néron accusa les chrétiens de ses propres crimes et une nouvelle persécution commença, plus terrible encore que les précédentes. Alors le zèle des catéchumènes redoubla avec le danger. Chaque jour, c'était de nouvelles veuves et de nouveaux orphelins à consoler. Chaque nuit, c'était de nouveaux corps à soustraire aux bêtes féroces et aux oiseaux de proie. Enfin Néron s'aperçut qu'on lui volait ses cadavres. Il mit une garde autour du mont Esquilin et une nuit, que quelques chrétiens, conduits par Paul, venaient comme d'habitude remplir leur mission sainte, une troupe de soldats, cachés dans un ravin de la montagne, tomba sur eux à l'improviste et les fit prisonniers à l'exception d'un seul. Celui-là, c'était Silas. Il courut aux catacombes et arriva comme les fidèles se rassemblaient pour la prière. Il leur annonça la nouvelle fatale et tous tombèrent à genoux pour implorer le Seigneur. Actée seul resta debout, car le Dieu des chrétiens n'était pas encore son Dieu. Quelques-uns crièrent à l'impiété et à l'ingratitude, mais Actée étendit le bras sur la foule pour réclamer le silence, et lorsqu'elle fut obéie, « Demain, dit-elle, j'irai à Rome, et je tâcherai de le sauver. » « Et moi, dit Silas, j'y retourne ce soir pour mourir avec lui, si tu ne réussis pas. »